Chapitre 67. 20h55. Dans la cheminée, les flammes font danser les ombres. Le craquement des bûches qui se consument ponctue le silence. Le feu, l'air, la terre et l'eau tiennent toujours leur place, quels que soient les sentiments qui nous animent et nous poussent à les envisager au prisme de nos émotions. La pression ne cesse de monter en crise. Mais en dépit des circonstances, l'âtre parvient tout de même à lui procurer de précieux instants de sérénité. Ce soir, poussé par ce qu'il est honnête d'appeler une superstition toute personnelle, Rognard a choisi de porter la chevalière de Peter. Lui-même n'en revient pas d'avoir eu envie de la passer à son annulaire. Elle lui va parfaitement. Et le fait est qu'il se sent moins démuni depuis qu'il l'a au doigt. Kate a raison. L'essentiel dépend souvent de l'idée que l'on s'en fait. Chris pense beaucoup à elle. La sensation que lui a laissée son fugace baiser est encore extrêmement présente. L'a-t-elle embrassée pour lui souhaiter bonne chance ou pour lui témoigner autre chose? La moitié de baiser déposée sur ses lèvres avait-elle davantage de sens que celle qui a effleuré sa joue? Même s'il paraît peu opportun de méditer là-dessus, alors que l'ultimatum fixé par le tueur vient d'expirer, Chris n'est pas mécontent d'avoir à se demander ce que signifie ce joli geste, même à demi. Incapable de tenir en place, il traîne son fauteuil pliant en essayant de déterminer l'emplacement le plus judicieux pour guetter l'arrivée de son sinistre visiteur. Il en a déjà testé plusieurs, refusant néanmoins de s'installer trop en vue dans la véranda. S'asseoir dos au mur lui semble une évidence, avec un angle de vision maximum afin de balayer tous les accès possibles, dont la porte d'entrée, qu'il ne s'est pas donné la peine de verrouiller. Il opte finalement pour le côté de la cheminée, s'assurant ainsi de bénéficier de la clarté du foyer quand son agresseur débarquera. Chris va pour s'installer lorsqu'il tressaille. Un homme se tient debout, dans la cuisine. Il n'a rien entendu et s'est fait surprendre comme un débutant. « Bonsoir », lui lance le gaillard très sûr de lui. Rognard sent un frisson lui parcourir le dos en reconnaissant la voix, qui ravive aussitôt le détestable ressenti de leur précédente entrevue. « Bonsoir », répond-il en se voulant le plus neutre et le plus assuré possible. Sans être certain d'y être parvenu, il tente de se composer une attitude à la fois libre et résolue, mais le résultat est mitigé. L'homme est vêtu d'une combinaison noire et d'une cagoule. La distance qui les sépare est trop importante et la lumière trop faible pour que Rognard puisse lire quoi que ce soit dans son regard. Par contre, il distingue sans problème le pistolet que Kate lui a confié et qu'il a stupidement oublié sur le buffet. Sa réaction n'échappe pas à l'intrus qui repère l'arme et va tranquillement s'en emparer. Que comptiez-vous tenter?
Rien en particulier.
Sa carrure et son évidente condition sportive indique que l'homme est de taille à se défendre si Chris envisageait de s'en prendre physiquement à lui. Notre contrat était clair, Rognard, et je reviens pour que vous l'honoriez. Qu'avez-vous pour nous?
Pas si clair que ça. Cette fois, vous ne me prenez pas en traître, nous nous retrouvons face à face.
J'ai peur que cela ne change rien sur le fond. Une grande confiance en soi émane de l'individu. Christopher ménage ses effets. J'ai trouvé des réponses pour vous, mais je veux des garanties.
À quel sujet?
La sécurité de ceux qui n'ont rien à voir avec notre affaire. Chacun à Kilthorpe a quelque chose à voir avec cette affaire. Laissez le gamin et Miss Fairley tranquille.
Cela ne dépend que de vous. Qu'avez-vous découvert?
L'intention initiale de Chris était d'établir le dialogue afin de glaner des indices, mais l'homme ne se montre pas loquace. Il va lui falloir se dévoiler plus vite qu'il ne l'aurait voulu, sous peine de voir l'entretien tourner court.
Je sais où se situent les entrées des souterrains, lâche-t-il.
L'homme ne bronche pas.
Je peux vous y conduire, précise Rognard.
Nous n'irons nulle part. C'est ici que vous m'expliquez ce que vous avez trouvé, et c'est ici que je décide comment vous vous en sortez. Pour étayer sa menace, l'homme tire un couteau de chasse de l'étui fixé à sa cheville. Rognard ne se démonte pas.
Si vous me tuez, vous n'apprendrez rien.
Si vous ne me dites rien, vous allez mourir rapidement et servir d'exemple aux autres qui finiront par me balancer ce qu'ils ont gardé pour eux jusque-là. Les deux solutions se valent, je vous laisse le choix.
Vous en avez fini avec les assassinats maquis en accident? Il faut savoir s'adapter, Renyard. Vous êtes tous à notre portée et la nuit est encore jeune. » Chris n'a pas le choix. Il lève les mains pour prouver qu'il n'a rien à cacher et se dirige vers le buffet. L'homme se décale, se maintenant à bonne distance. Il y a dans leur rapport de force une composante non dite qui instille un malaise. Si l'inconnu recule, ce n'est à l'évidence pas par crainte de ce qui pourrait lui arriver, mais pour garder l'absolu contrôle d'une situation qu'il domine sans concession. Chris récupère le tube rapporté de chez Thornton et retourne près du feu. « J'ai un plan avec les différents accès. La plupart sont effondrés. »« Pas tous. » Chris lance un rapide coup d'œil à son interlocuteur et détecte un imperceptible mouvement de tête. La conviction qu'il a mise dans sa réponse l'a appâté. Sans se hâter, Renyard s'agenouille devant le feu et extrait la carte de son étui. Il la déroule avec délicatesse, exposant directement le croquis. Les Kinlock ont dessiné ce schéma au dos d'une carte marine. Personne n'en a jamais soupçonné l'existence, jusqu'à récemment. D'un geste de la main, Christopher invite l'homme à s'approcher. En retour, celui-ci agite sa lame pour lui intimer l'ordre de s'éloigner. Renyard recule jusqu'à la véranda. Son agresseur pose un genou au sol pour étudier le plan à la lueur du foyer. Notre contrat ne prend pas fin ce soir, déclare Chris. Regardez ce que j'ai réussi à dénicher dans un délai pourtant trop court. Vous avez tout intérêt à me laisser quelques jours de plus, et je vous mènerai à ce que vous cherchez. L'homme lui adresse un regard indéfinissable. Savez-vous seulement ce que nous cherchons ? Chris prend son temps. Un pouvoir capable de faire naître ou d'anéantir les royaumes. Sous la cagoule, Renyard devine que le bougre sourit. L'homme se penche davantage sur le plan et interroge. Lesquels de ces accès sont encore praticables ? N'essayez pas de me vendre des salades, j'en ai visité quelques-uns. Moi pas, annonce Chris avec franchise, faute de temps. Mais je sais de source sûre quelle source. Renyard laisse échapper un rire. Vous plaisantez ? En un éclair, l'homme fond sur Chris, le plaque violemment contre la baie vitrée et lui colle sa lame sous la gorge. Renyard sent le tranchant érafler sa première blessure, qui n'a pas eu le temps de cicatriser. Au moindre mouvement pour se dégager, il se fera saigner comme un lapin. Au ras de son visage, l'homme articule « Ai-je l'air de plaisanter ?» Répondre même un simple non de la tête aurait pour effet de faire pénétrer le fil du couteau dans sa peau. Aussi Christopher se borne-t-il à fermer les yeux. L'assaillant relâche à peine sa prise. Chris n'a aucune chance de lui échapper, et ils le savent tous les deux. Renyard décide de tenter le tout pour le tout. L'or n'est plus là. L'homme lui éclate de rire au nez. Bien sûr que si. Chris ne peut rester sans répliquer, sa vie est en jeu. Il n'y a plus ni mine d'or, ni fausse monnaie. Une lueur passe dans le regard de son bourreau. Cette fois, il est bien assez près pour que Chris puisse y lire de l'étonnement, mais plus encore, du mépris. L'homme incline légèrement la tête et siffle. Vous n'en êtes donc que là. Vous vous contentez de ces stupides légendes parce que vous ne savez rien, pas vrai ? Chris a du mal à respirer. L'homme assure son appui et réduit encore le peu d'espace qui les sépare. Même à travers sa cagoule, Renyard sent son souffle sur sa peau. Quand je pense que je vous ai pris au sérieux, comme tous ces ignorants vous êtes convaincus que les galions accostaient pour faire leurs emplettes. Pour vous, ils venaient prendre livraison. Le cerveau de Christopher démarre en trombe, mais la situation oppressante l'empêche de réfléchir efficacement. Si vous ne savez pas où est enfoui l'or, grogne l'assaillant, c'est que vous n'êtes pas si bien renseigné que ça, et dans ce cas, vous n'êtes d'aucune utilité. De sa main libre, l'homme fouille dans sa poche et en sort une pièce d'or qu'il fait adroitement tournoyer à hauteur des yeux de Chris. Renyard a du mal à accommoder, mais c'est assurément une monnaie ancienne. Regardez-la bien. C'est la seule que vous verrez jamais. Il n'est question que de ceci, et ce n'est pas une légende. Le tortionnaire est lui-même en adoration devant ce qu'il exhibe. Il grommelle « Un pouvoir capable de faire naître ou d'anéantir les royaumes, sans doute autrefois, mais toujours parfaitement capable aujourd'hui de mener le monde et d'assurer une place enviable à qui le possède. » Reignard parvient à reprendre sa respiration et lâche d'une voix éraillée « En 4 siècles, personne n'a jamais réussi à le localiser. C'est faux. Ceux qui ont quitté la belle ont trouvé. On est bien placé pour le savoir. » Chris ne comprend pas. Son expression incrédule fait ricaner la brute. « Avant d'en finir avec vous, je vais vous faire cadeau du plus croustillant. Les héritiers peuvent toujours se la raconter avec leur pathétique règlement du conseil, mais il en existait un autre, bien avant, d'une toute autre ampleur. Il imposait notamment que lorsque l'un des associés de l'affaire était malade ou devenu trop vieux pour y tenir sa place, il recevait un pactole de quelques centaines de pièces comme celle-là, avec obligation de quitter la baie, de ne jamais y revenir et de garder le secret sous peine de mort. » Chris a l'impression que l'on vient de donner un grand coup de pied dans la pauvre partie du puzzle qu'il pensait avoir laborieusement réussi à assembler. Dans un mouvement au ralenti, les pièces valsent dans son esprit. L'homme plonge tout à coup son regard dans le sien. « Merci pour le plan, Reignard. Vous pouvez quitter cette terre avec la fierté d'avoir été le plus efficace de tous les proprios de cette bicoque. » Une autre lueur passe dans les yeux de l'inconnu, plus sombre, qui n'augure rien de bon. Chris sent soudain une brusque secousse. Son agresseur se tétanise, puis son corps glisse mollement contre le sien. Reignard voit flou, la tête lui tourne. Son assaillant gît maintenant à ses pieds, comme un pantin désarticulé. Chris porte ses mains à sa gorge, en essayant de retrouver son souffle. Il s'étrangle et relève les yeux. Rod Mallory se tient devant lui, serrant dans ses mains le club de golf avec lequel il vient d'assommer les gorgeurs. « Qu'est-ce que vous avez foutu, grommelle Reignard d'une voix rauque. Il était en train de me trucider !» Face à lui, le gardien de Hanford Manor sautille d'un pied sur l'autre, encore sous l'effet de l'adrénaline. « Il vous livrait des infos, alors j'ai attendu la toute dernière limite pour le neutraliser. »« La dernière limite? Mais j'ai failli crever !»« De rien, avec plaisir. Je suis heureux de vous avoir sauvé la vie. » Reignard tousse et se reprend. « Vous avez raison, pardon. J'aurais dû commencer par vous remercier. » Mais avouez que j'avais de quoi paniquer, je ne vous voyais même pas. Et pour l'amour du ciel, arrêtez de sautiller comme ça, c'est ridicule. Je suis blessé à la cheville. Rod désigne l'homme affalé et s'emporte. Cette espèce d'enfoiré a semé des pièges à loups un peu partout autour de la maison.